Maintenant, on rejoint Mme Laurence Parent, qui est conseillère d'arrondissement pour le district de Lorigny-Plateau-Mont-Royal, vice-présidente de la Société de transport de Montréal et présidente de la Commission permanente sur les transports et les travaux publics. Bonjour, Mme Parent.
Bonjour.
On vous appelle pour parler des élections municipales qui ont lieu donc en novembre 2025 et du défi par rapport à la représentation des personnes en situation de handicap. Parlons d'abord, parce que c'est en deux volets, là, parlons d'abord de représentation des personnes en situation de handicap au sein donc des équipes qui sont présentes. Il y a peu de candidats, candidates en situation de handicap qui sont dans les équipes.
Mm-hmm. Oui, ben effectivement, mais dans le fond, ben comme vous savez, le handicap, c'est sûr que c'est une situation où on peut la voir ou la considérer lorsqu'elle est dite. T'sais, c'est sûr que moi, je me déplace en fauteuil roulant, donc j'ai même pas besoin de le dire rapidement. On me considère comme une personne handicapée. Moi-même, je le déclare bien ouvertement, mais il y a des handicaps invisibles aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile de se prononcer. Là, moi, je serais pas à l'aise de vous dire exactement combien de candidats officiellement il y avait en 2025 aux élections municipales à Montréal, parce que peut-être des gens qui l'ont pas dit, il y a peut-être des gens, bon, vous comprenez, pour toutes sortes de raisons. Mais officiellement, c'est sûr que moi, dans mon équipe politique, nous étions deux candidats handicapés. Dans l'équipe de Mme Soraya Martinez-Ferrada, à ma connaissance, il n'y avait pas de candidats. Mais dans quelques jours, il y aura les données ouvertes parce que les candidats, doivent remplir un document d'auto-déclaration si on fait partie d'une minorité visible, si on a un handicap. Et dans quelques semaines, on aura les résultats. Les données officielles des différents partis politiques et des candidatures des personnes élues, en fait. Là.
Ce sera donc plus facile de le voir à ce moment-là, mais comme vous dites, il y a des gens qui ne mentionnent pas ou qui ne se considèrent pas en situation de handicap. Donc, c'est dur, effectivement, d'avoir des données très précises. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'effectivement, il y a quand même peu de représentation là, au sein des partis politiques. Quand on parle de la population en situation de handicap, on parle d'environ le 10 % de la population de façon générale. Ça touche à environ le 20 % au Québec et on n'atteint pas là, ces quotas-là là, dans les équipes municipales. Pourquoi, selon vous, là, les personnes en situation d'handicap peinent à se présenter comme candidat-candidate aux élections municipales?
Mm-hmm. Mais vous faites bien de souligner, effectivement, on le voit une sous-représentation qui est flagrante, là, que la personne le déclare ou pas. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs obstacles. C'est sûr que participer à la vie politique, ben, se présenter en politique, là, tout le monde le dit, hein. Je pense que dans cette campagne-ci municipale, on en a beaucoup parlé, à quel point est-ce que ça allait vraiment vouloir de se présenter en politique en 2025. C'est quand même des territoires qui peuvent être assez hostile. Tu sais. Puis là, ensuite de ça, ben on ajoute certains éléments qu'on veut penser aux femmes, ben ça vient avec malheureusement encore certains attaques misogynes, sexistes. Mais quand on est une personne handicapée, ça peut venir également avec certaines formes de discrimination au sein même des partis politiques. Les partis politiques, les humains qui sont dans les partis politiques peuvent eux-mêmes avoir des préjugés envers les personnes handicapées. Puis ce qu'on sait avec le handicap, c'est que souvent, c'est pas nécessairement les gens sont pas ouvertement, moi, je n'aime pas les personnes handicapées. C'est beaucoup plus insidieux que ça. Mm-hmm. Donc, c'est rare les personnes qui n'ont aucun préjugé envers les personnes handicapées. En fait, moi, je pense que ça existe pas tant. Même les personnes handicapées elles-mêmes peuvent avoir des préjugés face à d'autres handicaps. Moi, je me déplace en fauteuil roulant, je pourrais avoir des préjugés envers une personne aveugle si je connais pas cette réalité-là. Donc, il y a beaucoup de ça. Les préjugés sont très, très, très importants. Après ça, les personnes handicapées elles-mêmes peuvent se dire, ben, c'est pas pour moi. Je vois pas de politicien, de politicienne handicapée. C'est pas un environnement qui m'est accessible. Je serais peut-être pas capable de faire le travail. Dans certaines municipalités au Québec, les hôtels de ville sont même pas accessibles.
Oui, ça, c'est un bon point.
Oui. Ou mettons une personne sourde qui va avoir besoin d'un interprète avec elle, mais que quand on commence, c'est très, très difficile d'avoir les budgets. Mettons, par exemple, pour une personne qui voudrait se porter candidate.
Oui.
C'est vraiment un chemin très, très, très compliqué, là. Donc, il y a plusieurs obstacles. Les obstacles, une absence d'accompagnement clair, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne handicapée qui veut se lancer dans une campagne électorale? Est-ce qu'il y a des budgets pour l'aider à avoir, par exemple, ça peut être un accompagnateur, comme je le mentionnais, ça peut être un interprète. Donc, ce soutien-là, il reste encore, c'est très difficile à aller chercher quand c'est un parti politique plus organisé. Et plus riche, si je peux le dire comme
oui.
ça peut être plus facile, mais même à ça, la politique, c'est un milieu où ça va vite,
oui.
Où on recherche la performance. Donc, les normes, on pourrait dire que les normes sont très capacitistes. Donc, d'investir un monde qui fonctionne sur certaines normes qui sont très difficiles à performer pour n'importe qui. Je pense que n'importe qui n'a pas de handicap, faire une campagne électorale, c'est très, très, très exigeant. Mais quand, en plus, on part avec des obstacles, des réalités différentes, c'est très difficile.
Oui, vous faites bien de le dire. Puis c'est une roue qui tourne, hein, parce que vous l'avez dit, les gens ne voient pas de représentation du handicap dans les candidats, donc ne se sentent pas interpellés ou sentent qu'ils ont leur place. Donc, ça fait un cercle vicieux. Si on parle maintenant de l'accessibilité du vote pour les personnes en situation de handicap, c'est encore un défi, même en 2025, pour les personnes en situation de handicap, d'aller voter, d'exercer leur droit de vote.
Oui, tout à fait. Moi, ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans ce milieu-là. Il y a quelques années, on avait des lieux qui officiellement n'étaient même pas accessibles, par exemple en fauteuil roulant. Maintenant, je pense que c'est la première année aux élections à Montréal où tous les bureaux de vote officiellement étaient accessibles en fauteuil roulant. Ensuite de ça, est-ce que ça a été le cas dans la réalité? Je ne pourrais pas vous dire. Je l'espère. Moi, j'ai entendu l'histoire d'une personne aveugle qui avait eu de la difficulté, qui s'est présentée à son bureau de vote, puis qui n'avait pas le matériel oui. nécessaire pour pouvoir voter en toute confidentialité. Encore en 2025, ça arrive encore effectivement. Donc, c'est sûr qu'on peut présumer que si on arrive pour voter, qu'on vit de la discrimination, ben ça envoie le message là, que la politique, c'est pas un monde qui, pour nous, pour certaines personnes, ça peut donner le courage et la rage nécessaires pour dire je vais m'impliquer, je vais me lancer, je vais foncer. Mais pour d'autres personnes, ça peut être vraiment un signe de plus qu'on ne fait pas partie de la société, que ça ne nous concerne pas. Puis je pense aussi que c'est ça, c'est que je pense qu'on n'a pas encore dit le handicap, les personnes handicapées comme un groupe à part entière dans oui. la société, où si on fait une campagne électorale puis qu'on parle pas d'accessibilité, qu'on parle pas d'enjeux qui touchent plus spécifiquement le handicap, mais que c'est un problème, malheureusement, on n'est pas rendu là. Il y a certains groupes qui ont réussi, là, à se faire voir davantage. On peut pas faire une campagne électorale sans aborder certaines questions. Malheureusement, encore aujourd'hui, je pense que c'est possible de faire une campagne puis de ne pas aborder ou d'aborder de façon peut-être un petit peu plus superficielle ces enjeux-là, alors que c'est quand même des gens qui représentent un bon pourcentage de la population, c'est quand même des gens qui ont un pouvoir puis qui vont aller voter. Donc, il faut définitivement s'améliorer dans ce sens-là, mais il y a encore beaucoup de chemin pour qu'on comprenne que le handicap et que ces enjeux-là, c'est sont des enjeux politiques. Tu sais.
Est-ce qu'on en a assez parlé de l'handicap et de l'accessibilité universelle lors des élections municipales, selon vous?
Ben, c'est sûr que moi, en tant que personne
oui, handicapée... Oui, vous en avez parlé beaucoup.
Oui, c'est ça, moi j'en parle. Puis c'est sûr que pour répondre à votre question, ma réponse va être non, parce que moi, je pense qu'il faut en parler encore plus pour faire des liens, qu'on parle... Dans le fond, tous les sujets peuvent toucher le handicap. Donc, si on fait une annonce, par exemple, sur, je dis n'importe quoi, sur un parc, mais ça peut être l'occasion de mentionner de quelle façon est-ce que ce parc-là va être accessible. Donc, tu sais, il y a plein de façons de l'intégrer dans les différents messages, dans les différentes annonces. C'est sûr que du fait qu'on est, comme je vous dis, on est à Projet Montréal, on était deux candidats. Il y avait Clément Badra dans Snowden, moi sur le plateau Mont-Royal. C'est sûr que nous, on a beaucoup travaillé avec des militants au sein même de notre parti pour qu'il y ait des engagements d'accessibilité universelle. Donc, il y en avait dans la plateforme de Projet Montréal parce que il y avait un petit groupe
oui.
de personnes qui a porté ça avec des alliés, mais ce qu'on voit en général, c'est que s'il n'y a pas des personnes principalement concernées dans les différents partis, ben on risque de malheureusement de que ça se traduise pas nécessairement de façon réelle dans les plateformes électorales.
Donc, il y a encore du chemin à faire, mais Dieu merci, il y a des militants, des militantes qui portent le message et qui font changer les choses, même si ça change lentement, puis qu'on fait encore face à des situations, évidemment, qui sont inacceptables là, par rapport, entre autres, au droit de vote, là. Mais Dieu merci, c'est ça, il y a des gens qui font changer les choses, souvent des citoyens, des citoyennes qui le font vraiment parce qu'ils s'en donnent la mission. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Laurence Parent, et d'avoir parlé d'accessibilité et continuez justement là, votre travail parce que vous faites partie des gens qui portent ce message-là haut et fort et depuis plusieurs années, bien avant d'être conseillère d'ailleurs à Montréal.
Ben, oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour votre travail important.
Merci à vous. Vous êtes donc conseillère d'arrondissement au district de Larimier-Patrou-Piateau, donc Mont-Royal, aussi vice-présidente de la Société de transport de Montréal et présidente de la commission permanente sur les transports et travaux publics. Merci d'avoir été avec nous et à vous souhaite bonne chance dans votre mandat et dans la suite de vos projets.
Merci. À la prochaine.
Bye-bye.